Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile d'aujourd'hui, mes frères, est tiré, vous le savez bien, de ce début de l'évangile de Saint Matthieu, des chapitres 5 à 7 de l'évangile selon Saint Matthieu, qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est-à-dire le premier grand sermon que prononce le Seigneur Jésus au début de sa vie publique. Or, à la fin de ce sermon sur la montagne, au chapitre 7e de saint Matthieu, on trouve cette phrase « Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non comme leurs scribes. » Je m'appesantis sur une fraction seulement de cette phrase « Il enseignait en homme qui a autorité. » Le pape Benoît XVI disait dans son Jésus de Nazareth, en commentaire de cette petite incise, Jésus enseignait en homme qui a autorité, qu'il ne s'agissait pas de la part de la foule de lui reconnaître de simples qualités rhétoriques. Il enseigne avec autorité, comme on peut dire d'un avocat, vraiment quelle autorité, quel panache, ce type est vraiment bon. Le Seigneur Jésus, lorsqu'on nous dit qu'il enseigne avec autorité, en réalité, on veut dire qu'il a un niveau qui équivaut à celui du législateur de la loi ancienne. Il a la plénitude de l'autoritas. Il est celui qui peut édicter une loi équivalente à celle de Moïse. Vous voyez que tout cela est dit de manière très ramassée et qu'il faut savoir lire entre les lignes, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Et Benoît XVI de prendre pour preuve la réaction de la foule. On nous dit, je viens de vous le lire, les foules restèrent frappées de son enseignement. Mais l'original grec est toujours plus frappant, ou hébreu du reste, qu'on tienne pour l'original en hébreu ou en grec, peu importe, dans les deux langues, le terme est beaucoup plus fort qu'en français. Les foules n'étaient pas frappées, nous dit-on en grec ou en hébreu, elles étaient effrayées, effrayées de son autorité. Et ça, c'est typique dans l'Ancien Testament de la réaction de l'être humain lorsqu'il se trouve face à son Créateur, face à celui qu'on ne peut pas regarder dans les yeux, c'est-à-dire Dieu. Donc, lorsque les foules reconnaissent à Jésus qu'il enseigne avec autorité, lorsqu'elles sont effrayées, c'est qu'elles reconnaissent en lui rien moins que Dieu et Dieu législateur. Voilà donc que le Seigneur Jésus amende par le sermon sur la montagne toute la loi ancienne. Il le dit lui-même, du reste, « Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir ». Alors, c'est en tout cas comme ça qu'on traduit très souvent « accomplir ad implere ». Malheureusement, ça ne rend pas l'original là non plus, puisque ce que dit le Seigneur Jésus, c'est « je ne suis pas venu abolir, mais achever ». Achever, c'est-à-dire porter à son incandescence, c'est-à-dire compléter substantiellement la loi ancienne. Le Seigneur Jésus est venu tout simplement ajouter à la loi mosaïque, voire la retourner totalement. Vous voyez que très souvent, on prête au Seigneur Jésus, notamment aujourd'hui, chez des laïcs, je veux dire des personnes qui n'ont pas la foi catholique, mais qui regardent avec bienveillance le Seigneur Jésus. Vous savez que cette dénonciation du Christ, façon 19e siècle, a heureusement cessé. Mais aujourd'hui, on se retrouve sur une sorte de champ de braise, pour ne pas dire de champ de cendre, où il est de bon ton, dans les milieux parisiens notamment, lettré, dit-on, d'aimer la figure de Jésus. C'est un maître assez sympathique, c'est quelqu'un qui est sage, et on dit du Seigneur Jésus que quand il dit qu'il est venu apporter un esprit nouveau, une loi nouvelle, une loi de liberté, on aime à penser que le Seigneur Jésus est une sorte de 68 heures avant l'heure, que c'est quelqu'un qui a redonné sa priorité à l'esprit sur la lettre, au point de faire mépriser la lettre, en réalité. Et je crois que là, c'est ne pas très bien comprendre le Seigneur Jésus, c'est du moins ne pas lire intégralement ce que le Seigneur Jésus dit dans son évangile. Il ne s'agit certainement pas d'une carte blanche, où le Seigneur Jésus ne signe pas un chèque en blanc en disant « Mes petits chéris, tant que vous aimez, c'est le principal, arrangez-vous quant aux mœurs, arrangez-vous quant aux lois liturgiques, quant aux pratiques culturelles, ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité. Regardez ce que je fais du sabbat moi-même, regardez comme, en quelque sorte, je gifle les pharisiens et jusqu'aux membres du Sanhédrin. Vraiment, tout cela n'a aucune importance. » Vous savez, peut-être, pour avoir lu un certain nombre de ces commentaires dans Le Monde des Religions, que sais-je envoyer en chair, je cite, et ce sera repris à la radio, tant pis, je cite certaines lectures qui sont en vogue aujourd'hui, malheureusement, cette interprétation des paroles du Seigneur Jésus ne sont pas du tout conformes à ce que dit Jésus. Jésus, dans ce sermon sur la montagne même, dit « Pas un iota de la loi ne passera que tout ne soit accompli. Celui qui violera ne fût-ce que la plus petite lettre de la loi sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. » Il n'est donc pas du tout question, de la part du Seigneur Jésus, de tenir pour rien les préceptes, les commandements et les édictions législatives. Mais Jésus, encore une fois, est venu révolutionner la loi mosaïque. Non pas la mettre à bas, la révolutionner. Et en quoi cela consiste-t-il que révolutionner de la part de Jésus la loi mosaïque ? En réalité, il change son point d'appui. Le point d'appui de la loi mosaïque, c'était l'homme blessé par le péché. Il s'agissait, pour Dieu, de donner à l'homme des commandements qui soient à sa hauteur, ou plutôt à sa bassesse. Étant donné l'état pécheur dans lequel tu es, voilà ce que je veux pour toi. Voilà le minimum pour accéder au ciel. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas violer, honorer ton Dieu, tant soit peu, tes parents, etc. Vous voyez qu'il s'agissait d'un strict minimum. C'était déjà un strict minimum très exigeant. Qui d'entre nous pourrait prétendre qu'il applique parfaitement le décalogue façon mosaïque ? Mais ce que fait le Seigneur Jésus, c'est encore plus fort, il change le point d'appui, c'est-à-dire que désormais, le point d'appui, la ligne de mire du décalogue n'est plus l'homme blessé, il s'agit du Seigneur Jésus lui-même. C'est Jésus qui est la nouvelle Torah, c'est Jésus qui est le nouveau décalogue, le centre plutôt du nouveau décalogue. C'est lorsqu'on regarde la personne du Seigneur Jésus, lorsqu'on regarde ses paroles, sa manière d'être, la magnanimité avec laquelle il fait toutes choses, la perfection dans les moindres détails avec laquelle il fait toutes choses, qu'on sait comment se conduire en chrétien. Jésus, dans son comportement, ne va pas à l'encontre du décalogue, loin de là. Mais il va beaucoup plus loin dans l'application, dans les moindres détails du décalogue. Ainsi, Jésus reprend trois grands commandements de ce décalogue. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire trois parties, un sur chacun des commandements, c'est les vacances tout de même. Il y a trois grands commandements, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'adultère et l'interdiction du mensonge, pour lesquels on se tenait pour quitte parce qu'on n'avait tué personne, parce qu'on n'avait jamais trompé concrètement sa femme, ou parce qu'on n'avait jamais pris de femme qui appartenait à un autre. Appartenait, c'est étrange, mais c'est ainsi qu'on s'exprimait à l'époque. Et on se tenait pour quitte lorsqu'on n'avait pas fait de mensonges éhontés qui contrevenaient aux affaires publiques. Et que dit le Seigneur Jésus ? Vous le savez, il affine le jugement sur soi-même à l'aune de ces trois commandements, puisqu'il prétend que celui qui va jusqu'à insulter son frère, se contente d'insulter son frère, a en quelque manière déjà accompli un meurtre. Que celui qui a regardé, qui a consenti à un désir à l'égard d'une femme, a déjà commis l'adultère, que celui qui s'est contenté de jurer a déjà menti, a déjà trahi. Le Seigneur Jésus, en gros, est en train de nous montrer que tous nous sommes pécheurs. Regardez l'épisode de la femme adultère, ces hommes qui étaient prêts à lapider la femme qu'on avait pris la main dans le sac, si j'ose dire, eh bien, le Seigneur Jésus, d'accuser le peuple, c'est-à-dire l'intégralité de l'élite qui était là, et qui effectivement n'avait jamais commis d'adultère public, n'avait jamais été pris la main dans le sac, mais qui sans aucun doute avaient au fond de leur cœur commis quelque infidélité à leur épouse. Et regardez ce que dit la suite du texte. Tous ceux qui étaient là, et il s'agit tout de même de juifs qui essayent de pratiquer, il faut arrêter de juger que tous sont des hypocrites, tous devaient être tout de même, un certain nombre d'entre eux devaient être des types bien. Eh bien, même ces types bien sont obligés de se retirer, c'est-à-dire de confesser implicitement qu'ils avaient déjà commis l'adultère à la façon dont l'entendait le Seigneur Jésus, c'est-à-dire consenti à un regard concupiscent sur une femme. Voyez donc que le Seigneur Jésus, lorsqu'il impose cette nouvelle Torah, qui est toute relative à lui-même, évidemment, nous fait remarquer que nous sommes tous pécheurs, ce dont les anciens se pouvaient se croire quittes, parce qu'ils appliquaient les commandements, les dix commandements, à la manière extérieure, extrinsèque, dont l'entendaient les commentateurs de l'époque. Le Seigneur Jésus, donc, veut nous montrer que nous sommes incapables de faire le bien. Incapable de faire le bien par nos propres forces. Évidemment, le but de Jésus n'est pas d'abaisser. Jamais dans l'Écriture, il n'abaisse le pharisien, la femme publique, jamais il n'abaisse Zachée, jamais il ne va écraser quelqu'un. il vient toujours relever cette personne. Donc il ne s'agit pas, lorsqu'il édicte son serment sur la montagne, cette Torah nouvelle, de nous écraser, nous dire « Vois-tu, petit crétin, tu n'es capable de rien, écrase-toi la face contre terre devant moi. » Ce n'est pas du tout la politique du Seigneur Jésus, vous le savez. Mais Jésus veut nous faire prendre conscience, nous secouer la conscience, pour que nous cessions d'avoir bonne conscience, comme le font tant de nos contemporains qui croient être des gens bien, parce qu'effectivement, ils n'ont jamais menti de manière publique, parce qu'ils n'ont jamais tué personne et parce qu'ils n'ont jamais commis concrètement un adultère physique. Le Seigneur Jésus nous dit « Tu n'es capable de rien, mais moi, je suis là pour te racheter. » Il y a une façon dont tu peux entrer au ciel et une seule, sans moi vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, c'est d'adopter mes propres mœurs. Et c'est cela qu'on doit également discerner dans l'expression « Jésus enseignait avec autorité ». Autorité vient du latin « auctoritas ». J'y ai déjà insisté ici, mais je répète cela. « Auctoritas », ça vient de « augere », grandir, faire grandir. Jésus enseigne avec autorité parce qu'il veut faire grandir celui à qui il parle. Jésus, quand il édicte sa loi, n'a pas d'autre but que de nous faire prendre, en quelque sorte, la carrure, l'envergure de Dieu même. C'est-à-dire nous faire adopter les mœurs que lui, le Fils de Dieu incarné, a depuis sa conception dans le sein de sa mère. Voyez un petit peu l'ambition de Dieu. L'Ancien Testament et son décalogue n'étaient là que pour, en quelque sorte, dégager les obstacles les plus clairs. La nouvelle Torah, le nouveau décalogue de Jésus, si j'ose dire, dans le sermon sur la montagne, est là pour instiller en nous, par la grâce que nous recevons dans les sacrements, les mœurs de Dieu même. Voyez comme c'est exaltant tout de même que ce retournement, voyez comme nous avons un privilège par rapport aux Juifs qui ont été nos prédécesseurs, et certains d'entre eux illustres, dont les patriarches, les prophètes, là encore, il faut cesser de considérer ces gens-là comme des rustos et nous comme des parfaits, mais nous avons, parce que le Seigneur Jésus a eu la bonté d'édicter cette loi et de nous donner les moyens de l'accomplir jusque dans les moindres détails, nous avons évidemment une supériorité par rapport à nos frères juifs. Nous avons cette grâce de pouvoir prendre l'envergure des fils de Dieu à notre tour, des fils adoptifs de Dieu. Voilà, je crois, de manière très générale, le programme de toute notre vie chrétienne, et pour des points concrets, parce que nous sommes en période de vacances, et que entre deux dimanches, je sais très bien comment ça se passe, nous allons nous rendormir gentiment, ou prendre nos quartiers, très légitimement, bref, desserrer la ceinture de 5 crans, je pense qu'il faut, avant de repartir dans cette semaine de vacances, pour ceux qui ont la chance d'en prendre en tout cas, il faut prendre une petite résolution très concrète, sur un de ces points. Je n'ai jamais tué, mais le Seigneur me dit que je l'ai fait d'une certaine manière tout de même lorsque j'ai entretenu une sorte de haine ou une sorte de mépris à l'égard du prochain. Je n'ai jamais commis l'adultère, peut-être. Si jamais je l'avais fait très concrètement, je pourrais aller m'en accuser au prêtre, c'est-à-dire à Dieu même, et obtenir de lui le pardon, moyennant une pénitence. Mais même si je n'ai pas commis cela, eh bien, j'ai déjà consenti dans mon cœur à des impuretés. Et certes, je n'ai jamais menti de façon caractérisée, mais j'ai tout de même parfois falsifié la réalité. Peut-être que sur un de ces trois points, chacun d'entre nous a un effort particulier à faire, parce qu'il retombe fréquemment sur un de ces trois points. Eh bien, prenons la résolution, si vous le voulez bien, parce que tel est le prix à payer pour qu'enfin le Christ vive en nous et acquiert la plénitude qu'il entend avoir pour chacun d'entre nous. Eh bien, prenons la résolution très concrète de lutter sur un de ces points particuliers. Ceux qui ont du mal à garder leurs yeux, que cette semaine, ils fassent un effort pour ne pas regarder autour d'eux de manière concupiscente les créatures qui se promènent à la belle saison où nous sommes. Que ceux qui ont un problème quant à la haine ou quant au mépris de leurs frères, et particulièrement de quelqu'un de leur famille peut-être, avec lesquels ils sont tous les jours, fassent un petit effort. Que ceux qui ont l'habitude de falsifier la réalité, bien sûr, pour se mettre en valeur, eh bien, fasse un petit effort, que ceux qui ne cessent de jurer à tout bout de champ fassent un petit effort. Vous voyez que c'est par ces tout petits efforts, bien sûr, le Seigneur ne nous demande pas plus que cela pour l'instant, des petits efforts, puis des moyens, puis des grands, mais pour l'instant nous en sommes encore à la première étape. Eh bien, choisissons donc une ligne sur laquelle toute cette semaine nous pourrons faire effort. Et dimanche prochain, je vous invite à faire, lorsque vous entrerez dans cette chapelle, à faire, ou dans une autre chapelle, peu importe, à faire un petit examen de conscience sur ce point très particulier. Je crois que c'est le prix à payer pour que notre été ne soit pas infécond. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.